dispose dans la semaine pour nous édifier mutuellement, prier les uns pour les autres. Alors, je vous invite à reprendre Colossiens chapitre 3 avec quelques petites vérités, exhortations de l'apôtre de la parole, mais par l'intermédiaire de l'apôtre Paul que nous étions en train de considérer. Donc, Colossiens chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, Colossiens chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Jusqu'ici, la lecture. On avait considéré, bien sûr, que le chrétien est, comme l'apôtre Paul le dit ici, ressuscité avec Christ, et que cette position du chrétien nécessite une certaine ambition, on pourrait dire, dans sa vie. Il doit chercher les choses d'en haut, des choses qui sont en adéquation avec sa position nouvelle en Jésus-Christ. Verset 2, il dit « Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et puis, au verset 5, il dit « Faites donc. » Donc, le « donc » montre qu'il y a, que tout ce qu'il dit après vient comme une conséquence de la réalité spirituelle qu'il vient de donner et qui parle de cette union du chrétien avec son Seigneur, avec Christ. Il dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. » Donc c'est une responsabilité qui appartient, qui incombe aux chrétiens de mener la guerre contre le péché dans sa vie. D'accord, Christ nous a délivrés de la condamnation du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous sommes exhortés dans l'Écriture à travailler à notre salut, à progresser, à travailler à notre sanctification, et ici en particulier à faire mourir les choses qui dans notre vie sont des choses terrestres. Et l'apôtre Paul dit, c'est une manière de marcher qu'on avait autrefois, verset 7. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, donc il y a un autrefois et un maintenant, toujours dans la vie chrétienne, il y a un autre foi avec la manière avec laquelle nous marchons dans des péchés. Et puis aujourd'hui, maintenant, il y a une autre manière de vivre. Et il faut donc renoncer. On avait dit ici, renoncer, ça veut dire se dépouiller, se défaire d'un vêtement. C'est le même mot qui est utilisé lorsque lorsqu'il est question de ceux qui ont lapidé Étienne. Ils ont déposé leurs vêtements au pied de Saul et puis pour pouvoir librement lapider Étienne. Et c'est ça le mot qui est utilisé ici comme renoncer. Le chrétien dépose aussi des vieux vêtements et il en revêt d'autres. On avait considéré un certain nombre de choses, la colère, les paroles équivoques, je crois. Un petit peu avant aussi, les passions, l'impureté, la cupidité, on avait considéré ces choses presque une à une. Et ce soir, je voudrais juste qu'on s'arrête pour méditer avant que l'on prie sur le verset 9 qui dit « Ne mentez pas les uns aux autres ». Alors, depuis le verset 8, hein, « Renoncez à la colère », etc. Verset 8, il parle aussi, on avait appelé ça les péchés de bouche, hein, comme on dit, les métiers de bouche, on parle des péchés de bouche que l'on commet avec la bouche dans les paroles équivoques, mais il y a une autre manière encore par laquelle on pêche, et l'apôtre le souligne ici, c'est le mensonge. Alors, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Qui n'a jamais menti? J'ai entendu un « ah ». Je ne sais pas si ça veut dire « moi », ça veut dire « ah hein ». Si on disait, bon, qui n'a jamais volé? Je pense qu'on pourrait voir quelques doigts se lever quand même. Hein? Peut-être on a chipé un petit truc quand on était petit, mais en général, bon, ça paraît gros. Hein? Qui n'a jamais braqué une banque? Ah, y en a qui lèvent le doigt. Hein? Ils veulent nous rassurer, n'est-ce pas? On pourrait dire un certain nombre de choses comme cela. Hein? Mais si on dit qui n'a jamais menti, bon, quand on fouille bien, on a le mensonge est quelque chose d'assez particulier quand même. Hein? Et que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, on trouve des exemples de mensonges. Et quand on lit la Bible, on voit bien que le mensonge est un péché extrêmement commun. Et puis même, dans la vie de tous les jours, c'est commun. Alors, est-ce que vous pouvez citer dans l'Ancien Testament des exemples de mensonges? Est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit? Oui? Voilà, donc le premier que l'on a, le diable qui ment, qui dit « Non, vous ne mourrez pas », alors que Dieu a dit « Vous mourrez ». D'accord? Donc, on essaie de faire descendre ensuite. Est-ce que vous en avez d'autres? Achan? Oui, Achan, la Bible dit qu'il a menti. Hein? Il dit qu'il avait volé les choses, mais qu'il a aussi menti. C'est vrai, oui? Abraham, voilà, a menti aussi. Et sa femme aussi hein, a menti. Elle a menti sur le même sujet, mais elle a menti sur un autre aussi, parce qu'il dit qu'Abraham, Abraham, il a dit que ce n'était pas sa femme, quoi, c'était sa sœur. Il a dit les choses d'une manière telle que ça le protège. Et puis, Sarah, elle-même aussi, hein, on trouve un passage où Sarah même, elle dit que, je crois que c'était devant Guérard qui dit, voilà, elle a dit que c'était son frère aussi. Et puis, à un moment donné, elle a menti aussi à des anges. Hein. Quand l'ange a dit « Pourquoi tu as ri ?» ou « Tu as ri ?» elle a dit « Non, je n'ai pas ri. » Il dit « Ah, certainement, tu as ri. » Et voilà. Et pourquoi ce mensonge est sorti presque naturellement? Parfois, c'est un mensonge défense. Hein. Quelqu'un dit « Tu as fait ça ?» Tu dis « Non, je n'ai pas fait. Hein, » Et bon, et puis quand on nous reprend par deux fois... On avoue effectivement, bon, on a fait la chose. Mais des fois, c'est des mensonges réflexes, hein, on pourrait dire, que l'on peut avoir. Ah, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Il y en a d'autres, hein? Qui? Géasi, voilà, Géasi, le serviteur d'Élisée. Hein, lui aussi, hein, il a raconté plusieurs mêmes choses, hein, de mensonges. Et puis, il a même voulu mentir aussi à Élisée, je crois, hein. Donc, il y a Géasi, Rebecca et Jacob, hein, ont menti pour tromper qui? Pour tromper le père, Isaac, n'est-ce pas? Oui, voilà, Rachel. Il y en a qui ont volé les théraphimes et puis ils ont dit non, etc. David aussi a menti, hein, lorsqu'il était en fuite dans 1 Samuel. Donc, j'ai lu ça au Samuel chapitre 21. Et puis qu'il a, je crois que c'était le sacrificateur, Abiathar, non? C'était Abiathar, je ne sais plus quel sacrificateur c'était. Hein. Il arrive et puis il dit, il demande des choses, c'est là où il donne les pleines propositions. Et le sacrificateur, il est étonné de le voir tout seul, serviteur du roi, bon. Et David dit, c'est que bon, c'est une affaire pressante pour laquelle il est là, donc il ne fallait pas en parler à tout le monde. Il invente quelque chose qui est un mensonge. Et après, ça entraîne le massacre de toute la famille du sacrificateur par Saül quand il apprend, parce qu'il y avait Doeg, c'est Doeg qui s'appelait, hein? Doeg qui était caché là, et puis qui a dénoncé. Hein? Et ça a causé des problèmes. Oui, donc qui c'est qu'on a encore dans l'Ancien Testament? Bon, il y en a d'autres, hein. Oui. Saül, oui, Saül. Ouais, effectivement, Saül aussi. Hein. Qui? Les frères de Joseph. Oui, ils ont. Voilà, hein, ils ont fait des choses, tout un stratagème. Ils ont même inventé ce qu'ils allaient dire, etc. Tout à fait. Alors, dans le Nouveau Testament, on a peut-être moins d'exemples, mais on en a quand même un bien fameux. Hein. Ouais, on a Ananias et Saphira. Hein, là, le texte dit clairement, comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit? Est-ce qu'il y en a d'autres? Pierre? Ouais, très bien, ouais, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, mais il y a Pierre qui a dit, je ne connais pas Jésus. Hein. Pareil, un mensonge pour se défendre et puis empêcher qu'il ne soit pris aussi dans la tourmente hein, de l'événement. Est-ce que vous pensez à d'autres encore? Ah. Alors, s'il n'y a pas, peut-être qu'il y en a d'autres, moi je n'ai pas tout vu, mais dans l'église d'Éphèse, il y avait certainement des gens qui. Le mensonge, parce que dans Apocalypse 2.2, hein, il est question de menteurs, il parle de l'église d'Éphèse. Hein. Et donc, il y a des gens, de manière générale, on voit qu'il y a des gens qui pratiquaient un peu le mensonge. L'Apocalypse met en garde contre ceux qui pratiquent le mensonge. On va le voir tout à l'heure. Et si on regarde chez nous, maintenant qu'on a vu tous ces exemples, hein, si on regarde dans notre propre société, dans notre propre église, dans notre propre famille, on trouve des endroits où. Est-ce qu'on trouve que l'on ment assez facilement? J'ai lu un article hier soir pendant que je préparais cette étude. Ce n'était pas des chrétiens, mais c'était un journal, je pense, qui a fait ça et qui a fait discuter des gens entre eux, je pense. Et les gens devaient expliquer ce qu'ils font, etc. Donc, à deux, il y avait peut-être, je ne sais plus, trois personnes à qui on demandait de raconter quelque chose à quelqu'un d'autre. Il y en a une où on laissait libre de dire ce qu'elle veut, et puis deux autres où on disait, voilà, il faut donner ses compétences dans tel ou tel domaine. Et après, ils ont fait les gens réécouter ce qu'elles ont dit, les personnes réécouter ce qu'elles ont dit, et elles ont dit, elles ne pensaient pas qu'elles mentaient autant. Hein. Et 60% des personnes, enfin, dans 60% de ce qu'ils avaient dit, il y avait je crois que c'était 60% des mensonges, et la personne à qui on n'avait pas donné de contraintes, ben les gens ne savaient pas qu'ils seraient filmés, même tout ça. Bon, la personne à qui on n'avait pas donné de contraintes, eh bien, fait quelques mensonges, mais beaucoup moins que les deux autres qui avaient à défendre une compétence. Et il y a même quelqu'un qui a fait des mensonges, mais vraiment, c'est-à-dire une contre-vérité, qui s'est fait passer pour ce qu'elle n'était absolument pas. Et les gens étaient surpris de voir qu'en moyenne, en 10 minutes, ils avaient menti 3 ou 4 fois. En 10 minutes. Et c'est reconnu dans le monde même que on ment beaucoup. On ment beaucoup. Et si vous faites voilà, vous avez des transactions commerciales avec des gens, on a de plus en plus parfois des craintes d'être trompé. Quand on emmène la voiture chez l'automobiliste, on a beaucoup de craintes parce que ça coûte cher et puis on sait que les gens très facilement peuvent vous vendre une pièce pour une autre ou ne pas même faire les choses. Je me rappelle quand on s'est marié, hein, notre toute première voiture, hein, une vieille Ford, on avait une vieille Ford Escort. Hein, peut-être que vous ne savez même pas que ça existe. Hein. Samuel, ce n'est pas des Mercedes, c'était une Ford Escort. Hein. Et elle était, bon, c'était une vieille voiture, il fallait la faire réparer, donc il fallait changer les amortisseurs. Et puis, non, les roulements. Et on a emmené ça chez un mécanicien. Je travaillais dans une entreprise, j'emmène ça chez le mécanicien en face. Toute la journée, il la garde. Je me souviens, 900 euros à l'époque. C'était pas euros, 900 francs. Ça n'existait pas les euros à l'époque. 900 francs, c'était. Et après, je roule. Et puis, un ou deux mois après, ça fait encore du bruit. Et je l'emmène chez un mécanicien qui, lui, était, connaissait la famille de longue date et tout ça. Et puis je dis, j'ai changé, compas, j'ai changé les roulements et ça fait toujours du bruit. Il me dit, mais ces roulements-là n'ont jamais été changés, ce sont les roulements d'origine qui sont sur la voiture toujours. Et voilà, j'ai appris que je m'étais fait rouler, comme on dit, hein, n'est-ce pas, dans la farine. Et ça arrive, n'est-ce pas? Parce que, et les gens mentent effrontément, hein, c'est quelque chose que l'on fait naturellement. Dans un commentaire, hein, de John MacArthur, je lisais ceci, il dit, depuis la chute, le mensonge a toujours été un trait marquant de l'humanité non régénérée. La société actuelle repose tellement sur le mensonge que si elle décidait subitement de dire la vérité, elle s'effondrerait. Hein? Et tellement les choses sont basées sur le mensonge que si voilà, on arrivait, tout le monde dit subitement la vérité, eh bien tout le monde aurait peur de tout le monde parce qu'on se méfierait de tout et puis finalement on n'aurait plus confiance parce qu'on aurait peur. Et si les dirigeants du monde disaient tout à coup la vérité, la Troisième Guerre mondiale éclaterait presque aussitôt. Il y a tant de mensonges empilés les uns sur les autres et tant d'organisations d'affaires, d'économies, d'ordres sociaux, de gouvernements et de traités qui s'appuient sur eux que le système mondial se désintégrerait si on arrêtait subitement de mentir. Il y a même des gens qui disent oui, il faut quand même mentir parce que si on ne ment pas, on n'obtient pas ça. Si tu ne mens pas aux impôts, tu ne vas pas obtenir ça, telle aide, tel ceci, tel cela. Il faut quand même que tu dises un petit peu, que tu caches. Vous voyez, donc on est dans cette culture du mensonge. Le mot qui est utilisé ici pour mensonge, hein, alors c'est, enfin, le mensonge plutôt vient d'un mot, c'est un mot pseudo, hein, vous connaissez ce mot, hein, ouais, c'est pseudo-science, c'est pas une vraie science, c'est une science à peu près, c'était pseudo-apôtre, des pseudo-Christ, c'est pas des vrais Christ, des faux Christ, donc c'est un mot qui veut dire faux. Alors, il a le sens de dire quelque chose qui est faux, c'est-à-dire dire une contre-vérité, on prononce quelque chose qui n'est pas vrai. Hein? Par exemple, on dit la Terre est plate. C'est une contre-vérité. Mais ça n'a pas que ce sens-là, que le sens de dire des choses qui sont des contre-vérités. Ça peut aussi avoir un sens plus large et ça évoque le fait de tromper aussi quelqu'un. On peut dire quelque chose qui est vrai, mais où les choses sont vraies, mais dans le sens de tromper aussi quelqu'un. Ça s'appelle un mensonge. On peut induire quelqu'un en erreur. Pas forcément en disant des choses qui sont fausses, mais c'est dit de telle manière que la personne est induite en erreur. On peut falsifier un événement ou simplement le fait de ne pas tenir ses promesses aussi, c'est un mensonge. Hein? Parfois, hein, on raconte une histoire dont on a été témoin, et puis on est tenté de l'embellir ou parfois de l'enlaidir, hein, pour que ça peut-être nous procure, c'est pas peut-être une approbation ou quelque chose de la part des autres. Quelqu'un disait une fois, j'ai lu ça dans un livre, quelqu'un disait, un chrétien à qui on demandait de donner son témoignage, et les gens trouvaient ça toujours touchant. Et puis, au bout d'un moment, il a cessé de donner son témoignage. Alors, on dit, mais pourquoi tu ne donnes plus ton témoignage? Il dit, parce que je crois dans le fond que je l'ai tellement embelli que je crois qu'il n'y a pas toujours toute la vérité là-dedans. Et des fois, on dit quelque chose et puis on voudrait dire les choses d'une manière pour que ça accroche, ça attire, ça fasse un écho auprès des gens, qu'on a tendance tout doucement, petit à petit, à mettre un petit truc par là, un petit truc par là pour embellir l'histoire. Et ça devient finalement un mensonge. Et cet homme disait que quand il s'en est rendu compte, il a dit non, il faut qu'il arrête pour revenir à vraiment ce qui était essentiel. On ne veut pas confesser que l'on a oublié quelque chose à faire, quelque chose qu'on avait promis pourtant de faire. Et au lieu de dire, j'ai complètement oublié cela, qu'est-ce qu'on dit? Parfois, j'ai pas eu le temps. Ça passe mieux de dire j'ai pas eu le temps, ça veut dire que j'y ai pensé, mais en fait je n'avais pas suffisamment de temps. Et parfois ça sort facilement, mais j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas pu le faire. Et c'est juste pas vrai, c'est simplement qu'on n'a pas parfois pensé même à le faire. Et il faut dire la vérité si on doit la dire dans ce cas-là. Ça arrive souvent et ça s'appelle mentir. On n'aime plus notre mari ou notre femme alors qu'on avait fait la promesse devant Dieu de rester fidèle quoi qu'il arrive. On a menti. C'est mentir. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et on peut se considérer comme pas menteur, mais quand on ne tient pas ses promesses, même dans le mariage ou quand on a fait des promesses de sortie ou de quoi que ce soit, ou de fidélité, c'est qu'on a menti. On dit parfois, pardon pour le retard, la circulation était chargée. Puis des fois, on est parti un peu trop tard. Ce qui fait qu'on n'a pas anticipé la circulation. Si c'est une circulation qui a l'habitude d'être chargée, alors pour se faire pardonner, on dit vite, la circulation était chargée. Mais ce sont parfois des mensonges. Pourquoi je dis tout cela? C'est pour montrer que très facilement, on peut trouver un petit artifice qui nous aide à couvrir quelque chose. Mais quand on réfléchit bien, l'enfant de Dieu doit réfléchir bien. Est-ce qu'il dit la vérité? Ça peut être la vérité parfois, mais ça peut être aussi juste quelque chose que l'on dit pour cacher la vérité ou pour ne pas, pour sauver notre réputation. La Bible dit que Dieu est le mensonge. D'abord, il dit que Dieu est celui qui ne ment point. Hein? 1 Samuel 15, qu'on a lu dernièrement, il dit que voici celui qui est la force d'Israël, ne ment point. Ici. Hein. Et puis, Tite chapitre 1, verset 2 aussi, Dieu est présenté comme le Dieu qui ne ment point. Hein? Et ça, c'est important. La vérité est en Dieu. Il est la vérité. Hein? Jésus dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Mais Dieu, donc, ne ment pas, mais en plus, la Bible dit qu'il est le mensonge. Il a une haine du mensonge. Hein? Proverbe, je vous lis, Proverbe chapitre 6, verset 16 et 19. Il dit, il y a six choses que est l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Alors, est-ce que vous savez quelles sont ces sept choses? Je ne me souviens plus de ça, mais je me souviens quand j'étais j'étais tout jeune, ado, avec la monitrice de l'école du dimanche à l'église à Fort-de-France, eh bien, on avait appris ça par cœur, ce verset par cœur. Il nous faisait réciter, voilà, quelles sont les sept choses que Dieu est, etc. Et bon, avec mon grand âge, j'ai oublié. Mais je vous le relis. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal et le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Vous voyez, deux fois il est question de mensonges ici. Hein. Il dit qu'il est la langue menteuse, mais après il dit le faux témoin qui dit des mensonges. Ça fait partie des choses pour lesquelles, pas que ça, mais Dieu développe une profonde haine. Et la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui pratiquent le mensonge n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est intéressant de lire ce qu'Apocalypse, ça c'est Apocalypse 22, 15. Il dit, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et puis il aurait pu mettre les menteurs. Ça aurait été la même chose, n'est-ce pas? Mais là, il y a comme une insistance particulière sur la pratique du mensonge, parce qu'il dit, les chiens, juste un mot, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et puis là, quiconque pratique et aime le mensonge. Donc il montre que là, il y a quelque chose hein, qui est important au niveau du mensonge. Il dit même que l'étang de feu sera le sort des menteurs. Apocalypse 21, verset 8, je vous lis cela. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, il termine encore une fois par les menteurs, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. N'est-ce pas? Donc Dieu est le Dieu de vérité qui ne ment point, le Dieu qui est le mensonge et qui ne veut pas trouver le mensonge chez ses enfants. Mais rappelez-vous de Jésus lorsqu'il était sur la terre, il avait des entretiens, des discussions avec les Juifs, et il affirme avec force que le diable, par contre, lui, il est le père du mensonge. Il dit vous, et puis il dit aux Juifs qui discutaient avec lui, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et quel est le désir? Il a été meurtrier dès le commencement, ça c'est une chose, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44 et suivant. Vous voyez ici, le diable, c'est le père du mensonge, il profère le mensonge. Et ceux qui mentent, qui pratiquent le mensonge, montrent qu'ils sont enfants du diable. Ils agissent comme les enfants du diable, pas comme les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu doivent marcher dans la vérité. Et donc, ils ne doivent pas pratiquer le mensonge. Le mensonge ne doit pas être leur habitude. Nulle part, ni dans les relations familiales, ni dans les relations dans l'église, ni dans les relations professionnelles. Elles ne doivent pas être bâties sur le mensonge. L'enfant de Dieu doit être fiable. Alors, quelle est l'exhortation de Paul ici? Je reprends donc Colossiens chapitre 3, il dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Et on trouve l'exhortation parallèle en Éphésiens chapitre 4, où on lit ceci, 4, 25, « C'est pourquoi... » Il dit alors, « C'est pourquoi... » Je veux quand même regarder... parce qu'il dit c'est pourquoi, que pourquoi il dit c'est pourquoi, hein, c'est important puisqu'il le dit de regarder. Donc Éphésiens chapitre 4, on va regarder un petit peu avant le verset 25. Il dit mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Vous voyez ici, hein, en Jésus il y a quoi? La vérité, il est la vérité. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, encore une fois, c'est le même mot, dépouiller, renoncer, hein, c'est le même mot qu'on retrouve ici, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, c'est la même chose que dit, qu'il dit à Colossiens, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit quoi ? La vérité dans la vie du croyant, la vérité qui est en Jésus dans la vie du croyant produit une justice et une sainteté. Et donc, l'Écriture doit être marquée par cette vérité. Donc, au verset 25 maintenant, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Donc, Colossiens, c'était ne mentez pas les uns aux autres. Ici, c'est renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et ça, c'est une citation de Zacharie, je ne sais pas si vous avez le renvoi dans votre Bible, 8, 12, je crois, c'est ça? 8, 16, quelqu'un veut lire ça? Zacharie 8, 16? Oui, dans l'Ancien Testament, c'est déjà écrit. Hein, on sait. Zacharie 8, 16. Voilà. Hein. Dites la vérité chacun à son prochain. Voilà l'exhortation que l'on trouve hein, dans le prophète Ésaïe à l'égard du peuple. Et c'est ce que l'apôtre Paul reprend. Il dit, c'est pourquoi maintenant renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Alors, c'est intéressant parce que dans Colossiens, il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Mais ici, il dit quoi? Il dit, renoncez au mensonge et faites quoi? Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Donc, il donne, si vous voulez, le commandement, pas seulement sur un aspect défensif. Ne mentez pas, c'est un peu défensif. Je ne vais pas mentir. Mais on peut ne pas mentir et en ne disant rien. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'il ne faut jamais dire quelque chose. Hein, il y a des gens qui peuvent dire, mais pour ne pas mentir, je ne dis rien, comme ça je suis sûr que je ne vais pas dire des contre-vérités. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il dit que parfois il faut dire des choses. Il dit ici, mais dites la vérité, que chacun dit la vérité à son prochain. Quand on a l'occasion de dire quelque chose, il faut que ce soit la vérité. En fait, cela veut dire que tout chrétien doit dire la vérité. Quand il parle, il doit dire la vérité. Mais il n'est pas toujours obligé de dire la vérité qu'il sait, qu'il connaît. Vous comprenez ça, ce que je veux dire? Il y a parfois, quelqu'un peut nous dire quelque chose et cela a besoin d'être tenu dans le secret. D'accord? Parce que parfois, il faut que les gens soient protégés dans une certaine manière. Il y a des choses que l'on peut savoir et la bienséance, l'amour, c'est tout ce que vous voulez, exige qu'on ne le répète pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on sait une vérité qu'il faut la dire, forcément. Il faut avoir de la sagesse. Mais si je dis quelque chose, cela doit être la vérité. C'est ça que le verset d'ici dit, que ne mentez pas les uns aux autres, mais que chacun, s'il parle, dise la vérité à son prochain. C'est la même chose qu'il dit un peu, je crois que c'est au verset 29, quand il dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, c'est-à-dire s'il doit sortir quelque chose, eh bien que ce soit pour une parole qui serve à l'édification commune et communique une grâce à ceux qui l'entendent. » C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de dire quelque chose, mais si tu dis quelque chose, pense toujours à ce que ce soit édifiant pour l'autre. Tu n'es pas toujours obligé de dire une vérité que tu connais. Il y a des fois où Dieu va pousser à la dire, mais tout ce que tu dis doit être, c'est ce qu'il souligne ici, la vérité. Et quelle est la raison que Paul donne dans ces deux passages de Colossiens et d'Éphésiens? Il dit, si je reprends Colossiens, ici, il dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme ». Il dit la même chose, on a lu la même chose dans Éphésiens. Il parle du fait que l'on est aussi dépouillé du vieil homme. Hein, et que parce qu'on est dépouillé du vieil homme, eh bien, on doit renoncer au mensonge. Donc, il est en train de dire qu'on a revêtu Christ, on s'est dépouillé du vieil homme, on est passé de la mort à la vie, on est maintenant une nouvelle créature, et en vertu de cela, on doit être attentif à ce que l'on dit. On ne peut pas faire comme si on vivait de la même manière qu'autrefois. Il y a un maintenant. Le chrétien vit maintenant d'une manière différente de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, à cause du dépouillement du vieil homme, de vieil habit qu'on a déposé, hein, un peu comme ces hommes qui ont mis leur habit au pied de Saul parce que ça les gênait de manière à lancer les pierres plus librement. Le chrétien est celui qui se déshabille du mensonge pour pouvoir vivre plus librement dans la vérité, conformément à la vérité qu'il a reçue en Jésus-Christ. Ça, c'est une première raison. Mais il donne une deuxième raison aussi, si vous regardez. Il dit dans Éphésiens 4, 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Et ça, c'est un point important. Il dit que la communion, les chrétiens sont en communion dans le corps de Christ. Ils sont membres les uns des autres. Et cette relation qu'ils entretiennent, les uns avec les autres, dans laquelle ils sont placés, hein, on est placés dans le corps de Christ, hein, et on est de fait membres les uns des autres, cette réalité-là doit pousser à avoir des relations qui ne sont pas fondées sur le mensonge, mais sur la vérité. Nous avons besoin de parler les uns aux autres selon la vérité. Alors on peut imaginer un membre, la main, comme l'apôtre Paul parlait souvent un peu comme ça de l'Église, avec qui disait que la main ne peut pas dire à l'œil j'ai pas besoin de toi, etc. Mais on peut penser, imaginer, un cerveau qui dit au pied quelque chose qui n'est pas juste, ou humain qui dit, je sais pas, hein, on serait dans un dysfonctionnement, n'est-ce pas? Les membres du corps sont unis entre eux et ils connaissent la vérité les uns sur les autres. D'accord? Alors je me suis blessé, j'ai fait de la peinture là. Dans une chambre la semaine dernière, et puis je me suis blessé le petit bout de doigt, ça me fait vraiment très mal là, mais vous voyez, mon pouce gauche, il le sait, et des fois il vient juste calmer un petit peu un petit peu la douleur, hein. Donc je veux dire, c'est une manière de dire, voilà, hein, il dit, c'est pas, ça a mal ici, tout le corps sait que l'on a mal, hein. Il y a une relation qui est une relation de vérité dans les membres du corps, hein, quelque part, hein. Ça, c'est intrinsèquement au corps. De même, dans l'Église, les chrétiens doivent entretenir des relations qui sont des relations vraies. Si on a mal, on a des besoins, on a des choses, il faut qu'on le dise. Ça sert à rien que l'on cherche à paraître ce que l'on n'est pas. On souffre, on a besoin de partager avec les frères et sœurs que l'on souffre pour qu'ils puissent prier. On a un fardeau, on a besoin de dire la vérité. On n'est pas obligé de dire des détails forcément, mais on a besoin de donner une vérité pour que le corps puisse prier les uns pour les autres. Et la plupart du temps, ce que l'on a tendance à faire, c'est à cacher une difficulté pour qu'on puisse toujours continuer à nous considérer comme bien, comme spirituel. Mais on ne progresse pas quand on fait comme ça. Et le corps lui-même non plus ne progresse pas ici. Et lorsque David a menti, hein, je ne sais pas si c'était vraiment Abiathar, il faudrait chercher dans 1 Samuel 21, je pense. Il a menti, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, ça a eu une conséquence sur toute la famille, hein. Pas forcément sa propre famille, mais cette famille de sacrificateurs qui a été décimée. Pourquoi est-ce que Dieu a stoppé Ananias et Saphira très rapidement? Parce que l'Église était naissante, hein. Et certainement, il fallait faire attention à ce que le mensonge ne s'installe pas comme fondement déjà des relations dans cette Église, où les gens allaient dire, oh, merci Seigneur pour Ananias et Saphira que tu nous as donné. Merci pour ce cœur qu'ils ont eu, pour ce don qu'ils ont fait. Merci pour leur générosité et toutes ces choses, alors que dans le fond, ce n'était pas la réalité, vous voyez? Et donc l'Église allait vivre sur quelque chose qui n'est pas vrai, sur un mensonge. Ça allait fausser quand ça allait être su plus tard. Ça allait détruire peut-être beaucoup de relations. Et Dieu, il a stoppé cela parce qu'il ne voulait pas que le mensonge soit le fondement de la relation. Un auteur qui s'appelait John Stott, déjà décédé, disait ceci, hein. Il disait, le mensonge est un coup de poignard porté dans les organes vitaux du corps de Christ. La communion se bâtit sur la confiance et la confiance repose sur la vérité. Le mensonge sape les fondements de la communion, tandis que la vérité les affermit. Et ce qu'il dit là, c'est vrai partout, dans l'Église, mais c'est vrai dans les relations interpersonnelles aussi, hein. Quand on sait que quelqu'un nous a menti, on a beaucoup de mal après à faire confiance dans la relation, n'est-ce pas? Parfois, on arrive à dire je pardonne, mais on a du mal à refaire confiance parce qu'on a été, trahi, hein, et c'est très difficile. Le mensonge, ça détruit vraiment, ça sape les fondements de la communion. Donc, que le Seigneur nous aide à considérer cette exhortation. D'ici, on dit qu'on est un enfant de Dieu, on doit marcher dans la vérité. Parce que Dieu, il est lumière. Et donc, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous ne marchons pas dans la lumière, mais que nous marchons dans les ténèbres, l'apôtre Jean dit, nous mentons. Et la vérité n'est point en nous. Donc, nous avons besoin de demander au Seigneur de nous aider à renoncer à ce péché qui est très, très, très facile à commettre et qui est, hein, on dit qu'on ment comme on respire, hein. C'est dire que dans l'air même on respire partout le mensonge, que ce soit des promesses politiques ou je sais pas, à tout ce que vous voulez, en passant par tous les domaines, c'est très très facile pour nous de mentir ou de tricher ou de faire quelque chose qui n'est pas qui voilà, qui n'est que mensonge. Donc demandons au Seigneur de nous aider à être vigilants sur cela et à être comment je vais dire, de vrais témoins de Christ qui témoignons la vérité, non seulement dans ce que nous disons, mais dans ce que nous générons aussi, hein, ce que nous induisons aussi chez les autres. Voilà, on va s'arrêter là. Nous allons prendre quelques sujets de prière.